architecture mentale.
Cet épisode d'Architecture mentale vous est présenté par Kombu. Si vous voulez profiter de tous les bénéfices du kombucha sans avoir l'impression de boire du jus de champignon, essayez Kombu. Kombu, c'est la boisson vivante la plus accessible et la moins chère sur le marché avec 4 saveurs hyper faciles à boire. C'est aussi une façon d'avoir un petit kick d'énergie sans avoir à ingérer 3 tonnes de sucre. Visitez kombudrinks.com pour commander en ligne et entrer le code promo architecture mentale en un mot au moment de passer la commande pour bénéficier d'un rabais de 10%. C'est au kombudrinks.com et le code promo, c'est architecture mentale en un mot. OK gang, bon podcast.
En fait, généralement, en gros, c'est encore de la généralité, hein. Donc pareil, ça prend avec des pincettes, mais quand quelqu'un veut un truc et puis qu'il n'est pas prêt d'embrasser tous les inconvénients que ça comporte, bah, c'est que c'est un fantasme, en fait. C'est qu'il ne veut pas réellement l'avoir. Parce que le mec qui veut vraiment être bodybuilder, bah, tous les sacrifices qu'il y a à faire, il le fait. Il s'en fout, il ne se pose même pas la question. Parce que si c'est vraiment ce qu'il veut, mais dans les tripes, hein, il le fait. Donc, s'il se dit, ouais, mais là, mais s'il faut manger 6 repas par jour, il faut calculer ses calories, il faut s'entraîner 5 à 6 fois dans la semaine, il faut se faire un programme, il ne faut plus trop avoir de vie sociale. Ouais, je ne suis pas trop prêt à ça. Eh ben mec, c'est un fantasme. C'est un truc que tu as envie parce que c'est à la mode, c'est parce que c'est le rêve de quelqu'un d'autre que t'as, voilà, tu veux faire parce que c'est cool. Voilà. Des fois, tu peux avoir des rêves de ton papa, de ta maman, qui t'a inculqué depuis que tu es né, mais en fait, ce n'est pas ton rêve, en fait.
Vous écoutez Architecture mentale parce que vous voulez apprendre à vous connaître et vous maîtriser afin d'arriver à vous construire une vie à la hauteur de vos rêves. Je m'appelle Sylvain de Carufel et aujourd'hui, mon invité est coach en développement personnel et spécialisé dans la peur du regard des autres. C'est quelqu'un d'incroyablement inspirant qui m'a été chaleureusement présenté par l'algorithme d'Instagram et j'ai tout de suite dévoré son contenu ainsi que les vidéos de sa chaîne YouTube. C'est une première pour moi puisque cet invité nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, Camille Catineau. Bienvenue à Architecture mentale.
Salut Sylvain, merci de m'accueillir sur ta chaîne, sur ton podcast. C'est cool, c'est une très belle opportunité pour moi.
Il n'y a pas eu de résistance de ta part. Je trouve ça tellement génial. Tu sais, quand je t'ai écrit, tu m'as répondu tout de suite comme oui, c'est cool, on le fait. Comme on se connaît pratiquement pas. C'est vraiment cool.
J'ai adoré. En fait, tu m'as écrit, j'ai vu ton énergie. Je vais OK, podcast et tout. En plus, je voulais commencer à en faire pour ce que je n'avais jamais fait. Je voulais me lancer un peu pour voir ce que ça donnait, pour tester un peu tout ça. Et j'ai fait, mais super, opportunité. J'ai peur. Bah, j'y vais. Let's go. Voilà.
Tu vas souvent comme ça au devant de ta peur tout le temps?
Tout le temps.
OK. Pourquoi exactement?
Alors, parce que pour moi, en fait, la peur, c'est une opportunité pour grandir réellement. Pour moi, la peur, c'est un indicateur. Si tu as peur, c'est qu'il est derrière. Il va... Alors, pareil, on ne parle pas de la peur quand tu vas, par exemple, quand tu es sur un pont, ou tu es la peur qui te retient, qui te garde en vie. Moi, je parle vraiment de la peur de parler à quelqu'un, la peur de faire quelque chose de différent, d'aller vers l'inconnu. Parce qu'en fait, quand je sens cette peur, bah, je l'accueille. Je me dis, OK, elle est là pour quelque chose. Si je ressens une émotion à ce moment-là, c'est que ça veut dire quelque chose. Je l'écoute, je l'accueille et je me dis, OK, si le fait d'aller vers cette peur peut potentiellement me faire devenir une meilleure version de moi, j'y vais. Donc, c'est pour ça, je me dis, bah, podcast, parler à des gens, si ça me permet d'être meilleur et de développer des compétences, et etc., mais j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais parce que, en fait, tout simplement, c'est, en fait, j'ai tellement la volonté de devenir une meilleure version de moi-même et d'atteindre mes rêves que eh ben, ça dépasse le fait que l'immobilisme dans lequel je peux être, en fait.
OK, je comprends.
Donc, j'y vais, en fait.
Est-ce que tu as une espèce de slogan interne que tu dis, tu sais, aussitôt que tu files une certaine peur ou résistance à l'intérieur de toi, est-ce que tu as une espèce de motto qui revient tout le temps? C'est comme une phrase répétitive, comme que c'est ton... quand tu dis ça débloque quelque chose. C'est quoi?
C'est vrai que j'ai une phrase comme ça que je me dis que je n'ai jamais partagée d'ailleurs. C'est très perso. Mais
voilà, t'es pas obligé.
Ah non, mais je vais le dire en vrai parce que c'est vrai que je me suis jamais dit, tiens, mais qu'est-ce que je me dis en fait concrètement pour que je puisse passer à l'action? Donc j'ai peur, ok, je me mets dans ce truc-là, j'ai peur et je me fais, ouais, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Voilà, dans ma tête, je me dis ça, ouais, je m'en fous, allez, c'est rien, c'est bon, Camille, si tu as peur de parler à quelqu'un, c'est juste un être humain, il fait quelqu'un comme toi. Je veux dire, qu'est-ce qui peut arriver? C'est réellement, je ne vais pas mourir, j'y vais. Je me dis rapidement ça Quand j'écoute ça, je fais, ouais, c'est vrai. Et du coup, mon corps agit tout seul. Mon esprit me dit, non, non! Mais mon corps, il y va quand même, je m'en fous, j'y vais quand même. Et une fois que je suis dedans, eh ben, je déconnecte, enfin, je prends des ressources, j'y vais et je vois ce qui se passe et ça se décante, ça se décante. Et après, je suis à l'aise. Et à force de taper dans ces peurs-là régulièrement, eh ben, je commence à élargir ma zone de confort, enfin, d'inconfort plutôt, pour être de plus en plus confortable. Et
Exact.
après, voilà, c'est pas acquis, hein. On n'a pas, on n'est pas après tout le temps, on n'a jamais, on n'a pas genre pas de peur. Non, j'ai tout le temps peur constamment, mais j'y vais, c'est tout. C'est ça qui fait la différence.
Est-ce que, ça c'était ma prochaine question, en fait, est-ce que tu penses qu'on peut développer l'habitude d'être confortable dans la peur, à quelque part, autrement dit que ça devienne une espèce de no-brainer, de confronter ses peurs, que tu finis par être tellement habitué de confronter tes peurs que tu te poses plus la question, puis tu le fais. C'est un peu contradictoire, autrement dit, d'être confortable dans l'inconfort. Tu penses qu'on peut arriver à ce niveau-là?
Bah, le truc, c'est que avant déjà d'aller vers une peur, je me demande quand même si ça va m'être utile. Hein. Je vais pas me dire, vas-y, je dépasse ma peur si juste pour voilà, si je vais pas aller parler à des gens, si au final ça m'approche pas de mes rêves ou de la personne que je veux devenir. C'est qu'il faut quand même qu'il y ait un sens dans ça. Si je sens que ça va m'apporter quelque chose, j'y vais. Et pour répondre à ta question, trouver du confort dans l'inconfort. Alors moi, de ce que je pense, c'est que non. Alors tu peux être de plus en plus confortable, mais pas. Tu peux pas en fait enlever la peur. Elle sera constamment là, un petit peu en fait. Même les plus grands, comme je sais pas Tony Robbins, même David, un de mes mentors, c'est David Laroche, qui est un de mes profs aussi, et il le dit. Lui aussi, ça lui arrive souvent encore d'avoir peur. C'est juste qu'il apprend à gérer ça. Forcément, sa zone d'inconfort, elle est différente. Elle est beaucoup plus élargie. Parce qu'il se challenge tout le temps. Mais alors après, oui, je pense qu'à force, tu peux trouver du confort dans ton inconfort d'hier. Effectivement. Mais la peur ne disparaît pas.
Est-ce qu'il y a une part d'identité pour toi là-dedans? Autrement dit, que tu finis par te percevoir comme quelqu'un qui confronte ses peurs. Est-ce que OK, je repose la question de façon un peu plus concrète. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que tu as toujours confronté tes peurs ou est-ce que c'est un pas nouveau dans ta vie? Ou est-ce qu'il y a un point où est-ce que tu as dit, OK, je peux pas vivre de façon lâche comme ça, faut que j'apprenne. Ça fait-tu partie de toi depuis ta naissance ou bien c'est comme un changement qui s'est opéré à un moment donné?
C'est une super question. En vrai, je ne suis pas encore allé à ce point-là dans ma rétrospective, mais alors, j'ai toujours eu ça un peu où, depuis, pas tout petit, mais depuis mon adolescence, à l'origine, je suis quelqu'un d'assez. J'avais un comportement timide, hein, vraiment. Ma mère était obligée de me donner de l'argent pour m'obliger à aller acheter du pain. Sinon, je ne parlais pas, je ne sortais pas, je ne parlais à personne. J'avais un comportement timide quand j'étais jeune. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est la musique. Moi, j'ai une passion, c'est la musique. Et
Ah, on a ça en commun. Hein?
la musique, ça m'a aidé en fait à me dépasser parce que j'aimais chanter, mais chanter devant des gens, bah, c'était compliqué parce que bah, le regard des autres, forcément. Mais je le faisais quand même. Alors, pourquoi je le faisais? Alors, parce que les gens forçaient un peu, me disaient, allez-y, allez, chante. Et je vais, ok, je vais chanter. Et j'aimais bien, j'ai ce goût du challenge depuis que je suis assez adolescent, parce que depuis que j'ai, je sais pas, 12-13 ans, depuis que j'ai commencé la musique, parce que je m'imposais à chanter en spectacle. En fait, j'étais dans une école de musique et je devais chanter à la fin de l'année, préparer un spectacle. Je le savais, mais je le faisais quand même. J'étais terrorisé, mais je le faisais quand même. Pourquoi? Parce que je savais que en faisant ça, peut-être inconsciemment, ça allait m'aider à acquérir plus de confiance, à avoir plus de fluidité, peut-être me faire repérer par quelqu'un, parce que j'avais cette envie avant d'être une star de la musique, ensuite une star du cinéma. Moi, je me suis dit, bah, c'est obligé, il faut que je fasse ça, il faut que je passe par là si je veux atteindre mes rêves. Donc, on en revient à ça, cette identité de ce que je vais faire, ça me rapproche de la personne que je veux devenir, ça me rapproche, ça me développe ma confiance. C'est pas confortable, mais j'y vais quand même et ça me rapproche de mes rêves. Donc, mon ambition était tellement forte. Vraiment, mon ambition, ma volonté de réussir était tellement forte que, ouais, j'avais peur. J'ai toujours peur, mais j'y allais. Et j'y vais toujours.
Ok, là tu viens vraiment de toucher un point, puis tu as une vidéo là-dessus qui est excellente sur l'atteinte des objectifs. Puis c'est vraiment comment je pourrais dire, c'est mon, tout est dévoué à ça dans ma démarche de croissance personnelle parce que je me rends compte que le fait d'avoir des objectifs, c'est beaucoup plus... comment je peux dire? L'objectif lui-même est beaucoup moins important que tout le chemin que tu dois faire pour l'atteindre, finalement. Et puis, autrement dit, est-ce que le fait de te fixer un but clair, un but qui t'interpelle, est essentiel pour arriver à confronter tes peurs? Autrement dit, pour donner une excellente raison d'y aller quand même. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage... Attends un peu, j'essaie de vraiment poser la question comme il faut, là. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui n'ont pas de but et que tu peux remarquer que ils ont, par le fait même, ils sont moins courageux? OK, voilà.
Alors, ça m'est déjà arrivé qu'une amie à moi m'ait dit... d'ailleurs, ça m'avait choqué. Enfin, choqué. Elle m'avait surpris. Elle m'a dit « J'ai pas d'ambition ». Je fais « Mais comment ça, t'as pas d'ambition ? Tu veux dire quoi ?»« j'ai pas d'ambition. Je suis bien comme ça. » Et moi, c'était tellement inconcevable pour moi que je me dis mais comment c'est possible de ne pas avoir d'ambition ? Enfin, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de rêve, elle ne veut pas faire des trucs de dingue dans sa vie, elle veut se contenter de ce qu'elle a. Bon, après, si elle est bien comme ça, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'avais vraiment du mal à comprendre ça. Et pour moi, c'est essentiel, en fait. Si tu veux dépasser tes peurs, avoir un objectif précis, une sorte de comment dire, de cap à garder, une sorte de gouvernail, pour faire des métaphores un peu. Mais ouais, c'est ton objectif, c'est ton gouvernail. Et quand ça ne va pas, tu te rattaches à ton objectif, à ton rêve. Tu te connectes à « Ok, mais qui je vais devenir en allant vers ce rêve ? Qui est-ce que je veux devenir ?» Et c'est vraiment en restant dans cet objectif clair, il faut le définir précisément, l'objectif. Parce que si tu dis « Je veux devenir champion du monde », ok, mais de quoi ? De ça ? En combien de temps ? Ok, en champion du monde poids lourd. En combien de temps ? En 10 ans, ok. Par où tu dois passer ? Après, tu cherches le comment. Mais il faut le poser. Et puis, voilà, après, oui, j'ai fait une vidéo là-dessus où il y a plein d'autres techniques. Moi, que je fais tous les soirs, par exemple, c'est que je note mes objectifs tous les soirs qui sont vraiment importants pour moi. Et ça permet à ce que le cerveau dans l'inconscient puisse y travailler tout le temps, en fait.
Oui, j'ai vu ça, cet extrait-là, c'est super cool.
Je sais pas si j'ai répondu à ta question, hein, mais...
Oui, non, vraiment, en fait, t'as suscité une autre question. En fait, pas une autre question, mais un commentaire. C'est que j'ai aussi des gens comme ça dans mon entourage qui m'ont dit comme « Ah, mais moi, tu sais, je suis bien avec ce que j'ai. » Puis dans les faits, quand tu connais bien ces gens-là, ils sont pas nécessairement bien avec ce qu'ils ont. Et puis, le fait de poursuivre, le fait de vouloir être, par exemple, en... totale acceptation de ce qui est présentement et des événements de la vie qui arrivent, c'est un objectif en soi et c'est probablement le plus ambitieux des objectifs, tu sais, dans le sens que quelle démarche spirituelle incroyablement difficile que de dire peu importe ce qui va arriver, je vais aller avec le flow, de dire je vis une vie minimaliste, c'est parce que souvent les gens vont associer l'ambition avec l'ambition matérielle, qui n'est pas nécessairement la seule ambition possible. Je veux dire, quelqu'un qui s'en va dans un monastère pour dédier sa vie à la spiritualité, c'est toute une ambition. C'est incroyablement gigantesque comme décision, tu sais. Et puis, il y a un objectif clair là-dedans que ces gens-là poursuivent à tous les jours puis qu'ils font des efforts concrets et mesurés et mesurables sur cet objectif-là. Fait que cette espèce de autrement dit, je suis 100% d'accord avec toi que ça prend une quête. S'il n'y a pas de quête, il n'y a rien à poursuivre et toutes les actions perdent leur sens. Et comme tu l'as si bien dit, toute l'adversité perd son sens. Et quand l'adversité perd son sens, c'est le chemin direct vers la dépression.
c'est ça, en fait. Quand tu ne crois pas, croître, hein, du verbe la croissance, croître. Quand tu t'évolues pas, quand tu progresses pas, eh ben il y a de très fortes chances. L'humain est voué à évoluer. Et si tu t'arrêtes, tu dis ok c'est bon, moi, j'ai tout compris, je veux plus rien faire, je veux pas évoluer. Mais là, mais c'est tirer une balle dans le pied. Ça, c'est comment comme tu dis arriver à la dépression très rapidement. Hein, la dépression pour les nuls. Arrêter d'évoluer, arrêter de progresser. Voilà, c'est ça en gros.
Exact.
Et le mec qui comprend, ou la femme, hein, les gens qui comprennent que se challenger régulièrement, progresser, devenir une meilleure version d'eux-mêmes chaque jour que Dieu nous fait ou que l'univers nous apporte ou ce que vous voulez nous apporte, Eh ben c'est une chance pour continuer à apprendre des choses et trouver ce qu'il y a en nous qui est juste un trésor juste magnifique et se dire non, j'ai pas envie de, je me contente de ce que j'ai sans vouloir évoluer, que ce soit matériellement ambitieux pour avoir des choses matérielles, mais une ambition ouais, spirituelle aussi et des connaissances et des apprentissages de la vie, d'expérience. Et c'est tellement riche et c'est infini. En fait, c'est absolument infini, on ne s'arrête jamais d'apprendre.
Exact. Jamais. Puis une chose que j'ai remarqué, que j'ai constaté sur ma propre vie, c'est que tous les objectifs, incluant ceux qui sont matériels, sont incroyablement spirituels, dans le sens que, mettons, je donne un exemple, quelqu'un se donne pour objectif de devenir millionnaire dans 5 ans. Le chemin psychologique que cette personne-là doit parcourir pour arriver à cet objectif-là, c'est certain que cette personne-là va être grandie de tout ça, tu sais. Ou parfois, peut-être que la personne va développer, je ne sais pas si on peut développer un certain manque d'empathie, parce que souvent, ça peut être, dans certains cas, c'est là qu'on va effleurer et rentrer plus profondément dans le sujet du regard des autres, mais à un moment donné, il y a une espèce de détachement, ne serait-ce que ça, un détachement de ce que les autres pensent de ton objectif puis de tes actions pour atteindre cet objectif-là. Tu n'auras pas le choix de te détacher de ça, et ça, c'est une libération incroyable, tu sais, et sans compter la droiture, la discipline qu'il faut que tu développes, tu sais, pour cet objectif-là qui est en apparence superficiel, en bout de ligne, ou bien si tu dis, comme tu disais, moi, je veux devenir champion du monde poids lourd, ok, cool, ça peut avoir l'air de je veux être le gars qui tape le plus de gueule au monde, mais en bout de ligne, tu vas grandir spirituellement dans cette aventure-là, là, tu sais. Je veux aborder le regard des autres parce que tu me parlais que tu étais quelqu'un de timide quand tu étais petit puis que tu as transcendé ça, parce que visiblement, tu as transcendé ça, je le constate.
T'es très... je travaille encore, hein. C'est pas parce que je me dis, voilà, coach, on regarde des autres, que je me dis que je peux me balader à poil dans la rue sans avoir peur du regard des autres. Hein. Je travaille ça, ça se travaille. C'est comme la confiance, c'est comme l'estime, l'amour de soi. C'est quelque chose, c'est un muscle qui se travaille tous les jours. Si tu arrêtes de le travailler pendant X moments, bah forcément, tu vas perdre en confiance, tu vas perdre en estime, en amour. Forcément, ça se travaille. C'est comme le sport, quoi, que tu fais de la confiance. Pas la gonflette, parce que je dis ça, là, je fais de la muscu, je suis un passionné. Hein. Donc, ça, c'est me tirer une balle dans le pied de dire ça, mais faire de la muscu pendant, pendant 5 ans et t'arrêtes d'en faire pendant 6 mois, bah, là, tu vas. Ça va, ça, ça va. Il va se passer. Ouais, y a des choses qui vont diminuer, tu vois. Il y a des choses qui vont changer. C'est pareil, tu vois, c'est vraiment garder une. C'est tous les jours. Tous les jours. C'est comme se remettre en question sur des choses. C'est tous les jours en constante, bah, chercher pourquoi l'évolution, la progression. Et ne jamais rien de prendre pour acquis.
C'est quoi tes outils mentaux pour arriver à... Que ce soit peut-être du self-talk ou bien de... De quelle façon est-ce que tu as amorcé ta démarche de libération de l'opinion des autres? Puis qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui te consultent pour ce sujet-là?
Il y a plein de choses. Alors, la première chose là, qui me vient comme ça, c'est bah, déjà c'est de se confronter à ça, à cette peur. Le meilleur moyen déjà, c'est de se confronter, c'est de l'avoir vraiment en face de soi et se dire, ok, qu'est-ce qui se passe réellement quand j'y vais dedans, vraiment, parce qu'on a peur de ne pas passer à l'action, mais on ne sait pas ce qui se passe en fait si on n'y va pas, donc au bout d'un moment, il faut y aller.
Un exemple concret d'une vraie situation de ce que tu viens d'avancer, par exemple.
Voilà. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 mois, je voulais faire des vidéos, mais au milieu de plein de gens et parler comme ça avec mon portable et vraiment au milieu de plein de gens, parler ouvertement. Mais c'est une époque dans ma ville, il y avait énormément de touristes. Et c'est un challenge pour moi vraiment de le faire en mode, ok, bah, je vais faire une vidéo normale, je vais parler en plus du regard des autres. Et je l'ai fait comme ça en mode selfie. Donc les gens, ils te regardent en mode, mais c'est qui toi, tu sais pas ce qu'ils disent, mais tu dis, mais putain, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ici, machin. Tu peux vite rentrer dans un schéma voilà, où tu te mords la queue et tu... Et du coup, et ben, tu vois, je me suis fait coacher parce que je pense que c'est important de se faire coacher sur plein de choses. Je me suis fait coacher, je me suis challengé et après un coaching, je suis parti. Je suis parti dehors, j'ai pris mon portable, j'ai confronté le truc. Et pendant 1 heure, j'ai fait ça. Oh. Et ouais, j'ai fait plusieurs vidéos. Et des longues, hein. Bah, il y en a une d'ailleurs qui c'est une de mes IGTV qui est sur mon Instagram où c'était ça. C'était une des vidéos dans laquelle j'y suis allé, quoi.
Je sais pas si c'est celle-là, mais c'est la première vidéo que j'ai vue de toi, c'est de ça que tu parlais, puis tu étais en public. Fait que I guess que ça devait être un extrait de ça, là.
Ouais, c'était l'IGTV, ouais, c'est ça. Alors, il y en a une où je suis posé, mais c'est pareil, il y en a une où je marche et je parle de ça. Et ben, c'était ça, c'était ce moment-là. Et je me suis challengé, j'y suis allé. J'ai commencé, je fais, ouais, je commence à me dire, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? J'avais un peu. Et au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, mais ça va, en fait, les gens, ils s'en foutent. En fait, les gens, ils. En fait, je me créais des peurs tout seul, je me disais, je me faisais des histoires, je me faisais des films, mais les gens, ils s'en foutent. Et puis, quand bien même, ils s'en foutent pas. Quand bien même, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout? Et alors, que ça fait, on m'a rien dit, on n'est pas venu me parler, me dire, ouais, qu'est-ce que tu fais, machin. Il ne s'est rien passé, j'ai fait ça, j'ai arrêté, j'ai fait, mais comment j'ai pu avoir peur? Parce qu'en fait, il ne s'est rien passé. Il y avait plein de monde, mais vraiment, il y avait plein de monde et. Il ne s'est strictement rien passé. Donc, à ce moment-là, j'ai pris conscience que ma peur n'était pas fondée. Il ne m'était rien arrivé de grave. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est juste qu'une question d'entraînement, de le faire. Et voilà, il n'y a rien qui peut m'empêcher de le faire finalement maintenant.
J'aime donc, vraiment. Là,
je me suis vraiment rendu compte de ça. Quoi. C'est...
J'adore ce que tu as mentionné plus tôt, le fait que ça se perd par contre. Tu sais, que si tu le fais plus régulièrement, à un moment donné, la peur des autres va creeper in, puis tu vas être presque obligé de recommencer. Parce que j'ai vécu à peu près la même chose, tu sais, étant travaillant fort sur les réseaux sociaux, puis j'avais un vlog pendant un bout de temps où j'étais littéralement toujours en public avec des gens que je connaissais, des amis, des gens proches de moi qui appréciaient pas nécessairement le fait que je sois constamment en train de filmer. Ça aussi, tu sais, parce que la peur du regard des inconnus, c'est une chose, mais subir l'inconfort de nos proches quand on poursuit cet objectif-là, ça, j'ai trouvé ça excessivement drainant en énergie parce que je le faisais, j'allais jusqu'au bout, je sentais l'inconfort de mon bassiste, par exemple, ou bien de mon drummer qui appréciait pas le fait que je filmais tout le temps. Puis là, j'essayais de le faire quand même malgré leur désaccord non verbalisé. Peut-être que je me l'imaginais aussi, tu sais. Mais je connais bien assez bien ces humains-là pour savoir lire bien leur body language, là. Fait que je sentais ça. Puis à un moment donné, je finissais mes journées complètement épuisé. Et probablement que si je m'étais acharné à continuer ça, j'aurais fini par développer un peu plus d'aisance avec ça, mais bon, on se voyait pas régulièrement, puis il y avait des longues périodes qu'on passait sans le faire, mais j'aime vraiment ça. C'est très impressionnant que tu l'aies fait pendant une heure en ligne. C'est quand même quelque chose, comme une première, là, on se lance. Tu t'es mis un timer ou quelque chose pour te dire, je fais une heure, ou bien ça...
Je suis allé comme ça, et puis j'ai fait plusieurs vidéos. En fait, il n'y a rien de sorcier. Bah, je suis parti, allez, let's go, hein, je vais en faire plusieurs. Et puis j'en ai fait plusieurs. Mais tu vois, tu disais aussi un truc intéressant, c'est que... Oui, il y a ce truc que si on arrête, comme à la muscu, si on arrête, ça, on perd un peu le truc. Mais ce qui est bien, c'est que comme à la muscu, quand tu reprends, alors que ça fait 5 ans que tu fais de la muscu, tu arrêtes pendant 6 mois et que tu reprends, il y a ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Du coup, tu te remets vite en forme comme avant. Peut-être pas en 3 jours, mais en un mois, tu peux récupérer une shape vraiment intéressante. Et ben, c'est un peu pareil, je pense, par rapport à... Du moment que tu l'as fait une fois, que tu as cassé le truc, tu as brisé la glace une fois, ben, tu arrêtes complètement de le faire, ok? Tu te remets dedans, c'est pas confortable, mais ça sera pas aussi inconfortable que la première fois où tu t'es vraiment dépassé. Et du coup, quand tu le refais, et là, ça reviendra plus facilement, et là, tu te diras, ouais, ok, c'est bon, j'ai relancé le truc, ça va. Et c'est un peu ce même truc, je trouve. Vraiment, tu l'as fait une fois, tu as brisé la glace au moins une fois, tu as fait le plus dur, en fait.
Il y a quelque chose que je trouve important de se dire aussi quand on travaille sur des choses comme ça, c'est que faut pas oublier que la peur du rejet, en fait, en bout de ligne, la peur du regard des autres, ça se trouve être de la peur du rejet, tu sais. Et puis, cette peur-là, elle est millénaire et probablement plus que ça. Tu sais, ça date de l'époque où on était des primates. Et puis, se faire rejeter de la tribu pendant la majorité de l'histoire de l'espèce qu'on est, ça signifiait la mort, tu sais. Il y a un primate tout seul dans la jungle qui n'a pas sa tribu pour se défendre, pour chasser. À un moment donné, il peut absolument rien faire. Il est bien plus assujetti aux prédateurs et tout ça. Fait que on se bat un petit peu en essayant de transcender cette peur-là. On se bat contre une mémoire cellulaire puis du cerveau reptilien qui est là depuis tellement longtemps. Puis ça devient un peu contre-intuitif de le faire. Fait que je dis ça pour les gens qui nous écoutent, qui sont de nature timide puis qui n'ont pas nécessairement travaillé dans le public puis qui sont terrorisés à l'idée de monter sur une scène pour présenter un prix ou quoi que ce soit. Peu importe quelle est la situation où est-ce qu'on doit se mettre en danger face aux autres. Mais pardonnez-vous ça, t'sais, parce que c'est incroyablement ancré dans notre justement dans notre mémoire cellulaire, dans notre instinct de fuir les situations qui peuvent en apparence nous mettre en danger face aux autres, t'sais.
C'est vrai que la solitude, c'est quelque chose, c'est vrai que tu viens de vraiment soulever un point intéressant que je ne connaissais pas trop par rapport à cette mémoire cellulaire vraiment de nos ancêtres finalement. Mm-hmm. Mais c'est super intéressant que tu parles de ça. Il y a aussi une partie que ceux qui sont vraiment de nature timide, comme tu dis, moi, je considère que c'est un comportement. Ces gens-là ne sont pas timides. C'est un comportement. Et c'est possible que le passé a fait qu'ils sont devenus comme ça, qu'ils ont vécu des trucs un peu traumatisants, je ne sais pas, impactants, ou que il y a vraiment dans la psychologie, c'est de 0 à 3 ans, il s'est peut-être passé des choses. Après, ça a creusé en accompagnement, à voir avec la personne en one-to-one pour comprendre vraiment… qu'est-ce qui fait qu'actuellement, elle se comporte comme timide. Il peut y avoir plusieurs raisons. Des fois, c'est juste du manque de passage à l'action. Des fois, c'est juste très, 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 très souvent. Bon, je fais une généralité, mais ça arrive très souvent. Pour moi, un des piliers pour développer sa confiance en soi, pour justement oser montrer qui on est et atteindre ses rêves, donc, du coup, c'est un peu se libérer du regard des autres, c'est de s'aimer tout simplement. Donc, quand il y a une blessure d'amour pour soi, vraiment réelle, quand la personne n'arrive plus à se respecter, à s'écouter, quand elle n'arrive plus à s'accepter, à se pardonner de ce qu'elle a vécu aussi, c'est important, et bien là, il y a un réel ancrage qui fait que la personne, déjà, elle ne se donne pas de valeur, pas assez, et quand tu ne te donnes pas de valeur, bah forcément, le regard des autres a beaucoup, beaucoup plus d'importance pour toi.
C'est quoi ton antidote à ça?
Quand tu connais, ouais, quand tu sais vraiment qui tu es, qui tu es, on apprend tout le temps à savoir, c'est une quête de tous les jours, hein, mais quand tu apprends de plus en plus à savoir qui tu es, quand tu apprends à t'apprécier, à te pardonner, à t'accepter, à t'écouter, quand tu développes tout ça, petit à petit, ça prend beaucoup de temps, hein, c'est quelque chose qui est très, ça prend énormément de temps, et quand tu apprends à faire ça et avancer vers ça, le regard des autres, il se dissipe petit à petit. Je ne dis pas que ça part comme ça, comme par magie. Ce n'est pas de la magie. Hein. C'est juste que tu es de plus en plus à l'aise. Quand tu t'aimes réellement, mais le regard des autres, qu'est-ce que tu en as à foutre en fait? Qu'est-ce que tu en as à foutre? Si toi, tu t'aimes inconditionnellement pour ce que tu es, tu connais ta valeur, on peut te dire merde, on peut te juger, te critiquer. Tu fais vas-y, je m'en fous. Je sais ce que je vaux, mais je suis bien avec ça.
C'est quoi ta porte d'entrée pour ça? Parce que c'est ce que tu viens de nommer, c'est probablement le problème de 90% des gens, si c'est pas plus, là. Comment on fait pour arriver à se mettre soi-même au moins à la même valeur que les autres? C'est de ton côté, mettons, avec les gens avec qui tu travailles, où c'est différent pour chacun, où est-ce que tu as une espèce de boîte à outils pour commencer ce travail-là d'amour propre, tu sais?
J'ai pas de méthode miracle comme on pourrait communiquer avec les marketing en ce moment, genre en 30 jours, ayez confiance en vous, en 30 jours, en 30 jours, faites-y. Non. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment un travail. Déjà, il faut le conscientiser, ça. Faut se poser les bonnes questions. Donc, se faire accompagner, c'est juste essentiel parce que tu n'as pas l'habitude de te poser des questions comme en coaching on te pose vraiment des questions, tu dis waouh, attends, je réfléchis, là j'ai pas l'habitude de me poser ces questions là, genre je manque de confiance, ok, mais comment tu sais ça? J'ai plusieurs fois posé cette question là comment tu sais que tu manques de confiance?
Ah waouh.
Et on me disait ouais, c'est vrai que plusieurs fois on m'a dit en fait si j'ai quand même confiance des fois. Ah, c'est intéressant. Donc du coup, ta confiance des fois, ça veut dire que tu dis que tu n'as pas confiance en toi, mais il y a des moments où tu as confiance. C'est intéressant de voir dans lesquels moments tu as confiance et dans lesquels tu as un peu moins confiance. Et c'est quoi finalement aussi la confiance pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, par exemple, Sylvain, qui est confiant, ça ressemble à quoi? Comment on pourrait le décrire, tu vois? Si on faisait un livre sur toi, ce serait quoi? Sylvain est confiant, voilà, quand il fait ça, quand il est comme ça. Et pour revenir à ce que tu disais, il n'y a pas de remède miracle. C'est vraiment juste un travail de conscience, de tous les jours se dire « ok, qu'est-ce que j'ai à pardonner via mon passé, par exemple ? Qu'est-ce que j'ai à pardonner? Il y a plein de choses qu'on doit se pardonner inconsciemment aussi, qui nous empêchent aussi de faire la paix avec nous actuellement. C'est un peu faire la paix avec son passé, en fait. Il y a le fait de s'accepter, accepter son corps, accepter sa voix, accepter vraiment tous ces petits détails. Et tout ça, ça prend du temps. Se respecter, savoir dire non, savoir s'écouter et dire non, là j'ai envie de rester un peu chez moi tranquille, me coucouner, me faire des soins, me faire masser, faire du sport, prendre du temps pour moi, seul avec moi-même. Ça, c'est aussi une des pistes. Et s'écouter forcément et se respecter, comme je l'ai déjà dit. Donc, ouais, ça, c'est, pour moi, c'est les quatre piliers qui sont juste super importants. Et du coup, apprendre également à se connaître. Parce que quand tu apprends à te connaître, tu apprends qui tu es, tu apprends tes qualités, tes axes d'amélioration, tes valeurs, parce que c'est super important de connaître ses valeurs. Parce que si tu fais des choses qui ne sont pas en adéquation avec tes valeurs, tu te dis, mais je comprends en fait pourquoi ça bloquait là. C'est parce que je n'étais pas en adéquation avec mes valeurs. Je comprends mieux, bordel.
Voilà. C'est
se connaître, vraiment se connaître, nos qualités et nos axes d'amélioration, c'est important de les savoir, de les conscientiser. Et tout ce package-là, tout ce que je te dis, là, les quatre piliers, il n'y a pas de remède miracle. C'est un travail de tous les jours. C'est être suivi, être accompagné. Et puis, un travail aussi intérieur. Il faut que tu te prennes en main. Vraiment, tu te dis, OK, je prends du temps pour moi. Et c'est vraiment la première clé pour moi, c'est prendre du temps pour toi. Tout seul, avec toi-même. Tu fais ce qui te fait kiffer. Je ne sais pas, n'importe quoi. Mais prends du temps pour toi, bordel.
Wow, c'est très cool. Moi aussi, ce que je recommande, c'est... Tu mentionnes Brian Tracy dans une de tes vidéos. Et moi, il y a une phrase de Brian Tracy qui m'a remarqué, c'est « Always think on paper ». Quand j'ai entendu ça, ça a changé ma vie. C'est incroyablement...
Tes pensées sur le papier, c'est ça. Enfin, toi, je le décris parce que je ne suis pas forcément un anglophone de ouf. Mais okay. J'ai compris, c'est ça. C'est vraiment... en gros, toutes tes pensées, tu les mets sur papier, qu'elles soient...
Exact. Bonnes. En fait, réfléchis toujours sur papier parce que ça m'est arrivé avant que je prenne cette habitude-là. Tu sais, t'as un moment d'épiphanie incroyable sur une partie de ta personnalité que tu viens de comprendre tout d'un coup. Et l'année d'après, à la même date, t'as un moment d'épiphanie incroyable. Mais c'est le même que l'année passée. Tu l'as juste pas pris en note. Oui, mais quand, dans mon entier, quand j'étais adolescent, j'avais pas nécessairement de discipline, de réflexion, puis j'avais pas nécessairement une démarche bien établie dans le but de grandir. J'étais... excessivement intéressé au développement personnel et à la spiritualité, mais j'avais pas de méthode, j'avais pas de plan, j'avais rien. Donc, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des moments de réflexion. Puis là où j'ai commencé à me rendre compte de ça, c'est quand j'ai commencé à écrire dans un journal mes pensées. Puis que là, l'année d'après, je relisais mon journal d'avant. Puis là, c'est drôle, ça fait deux années d'affilée que j'ai la même réflexion, la même prise de conscience qui a l'air donc nouvelle, mais en bout de ligne, c'est la même. Fait que là, OK, ça serait peut-être le temps que je relise puis que je compte, que je fasse un suivi sur mon évolution. T'sais. Et puis là, il y a quelque chose que tu as touché que je trouve incroyable. Je trouve vraiment ça subtil et incroyablement important. Tu parlais de la confiance en soi et du fait que ça fluctue. Puis on est beaucoup trop prompt à généraliser sur nous-mêmes. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Puis là, on fait une espèce de personnage qui s'applique à tout notre passé, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Puis on fait la même chose en relation. T'sais. Tu dis toujours que tu fais jamais. Puis là, on fait des espèces de généralités. Mais c'est tellement nocif de faire ça. T'sais. Puis comme tu dis, c'est vrai, des fois, j'ai confiance en moi dans telles circonstances. D'arriver à comprendre ça, c'est précieux, c'est incroyable. C'est vraiment très bon.
On retient, comme tu dis, on retient plus souvent les choses qui ne marchent pas, les choses négatives, les échecs. Pourquoi ? Je n'ai pas encore la réponse, mais c'est un fait. On retient plus souvent vraiment les choses qui ne marchent pas, même dans les couples. Ah, tu fais toujours ça, mais en fait, mais y a plein de choses que j'ai fait bien aussi. Et y a des moments où j'ai eu confiance en moi aussi. Et ça, on l'oublie facilement. Et c'est ça, en fait, que le coaching sert, c'est de te faire comprendre qu'en fait, mais si, il y a plein d'endroits, si tu creuses bien, il y a plein d'endroits où tu as fait preuve de confiance, d'assurance, de ce que tu veux, d'estime de toi. Et c'est forcément, c'est pas là tous les jours. Moi, pour être honnête, il y a des moments, j'ai pas tout le temps 100% confiance en moi, mais pas du tout. Il y a des moments, surtout quand j'ai une baisse d'énergie, alors là, un conseil, vraiment, ce que j'ai remarqué depuis pas longtemps, j'ai constaté ça, j'ai fait, mais ah ouais, d'accord, en fait, c'est limpide maintenant. Quand on est fatigué, quand on n'est pas en énergie, ça arrive, hein, c'est normal, on est des humains, ça fluctue l'énergie, on n'est pas toujours Hercule, Zeus, ou ce que vous voulez, voilà, on a une énergie qui fluctue. Et quand on est dans ces moments où beaucoup plus bas d'énergie, bah, forcément, on a moins confiance en soi, on ose moins passer à l'action, on ose moins dépasser nos peurs, ce qui est normal. Surtout ne pas réfléchir à son avenir à ce moment-là, ne pas se poser des questions existentielles, parce que dans ces moments-là, on n'a pas du tout la même capacité à voir le positif et à se dépasser et à y aller que quand on est à fond, en fait. Quand on est à fond, on n'a aucune barrière, on est « Ah, oh, je vais tout défoncer !» Et puis le lendemain, bah, tu as une baisse d'énergie, tu fais ouais, « En fait, je ne sais pas, je commence à douter, en fait, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, ça? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que… » Ah ouais, ça arrive. Et quand c'est comme ça, juste, ne te pose pas de questions et prends du temps pour toi. Repose-toi, remonte ton énergie et ensuite, tu penseras aux choses qui sont importantes pour toi à ce moment-là. Mais quand tu es fatigué, mais repose-toi. Prends pas des décisions de dingue quand tu es crevé, mais c'est la putain de connerie à faire, ça. Quand tu es crevé, mais prends pas de décisions importantes, surtout pas, parce que tu peux te bouffer les doigts après.
Je suis tellement d'accord avec toi, puis ça a été ma réalisation je dirais des deux dernières années, sauf que j'étais tellement dans une dynamique d'autodestruction par volonté de productivité, j'imagine que tu peux comprendre ça, que autrement dit, tu travailles tout le temps ou tu te caféines au bout dans le but, puis là, tu vas pas t'entraîner parce que tu n'as pas le temps, parce que tu veux produire le plus de trucs possible, puis finalement, tu finis par te détruire à petit feu sous prétexte de vouloir être productif. Le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, tu es fatigué constamment, jour après jour, et tu te souviens plus c'est quoi de pas être fatigué, puis tu as l'impression que c'est ça ton état normal, puis là tu réfléchis pas bien. Non, je dirais que ça fait peut-être 5 ans que je suis dans une démarche de redresser ma santé, et puis c'est à chaque fois que je coach quelqu'un, c'est la première chose que je fais, je fais de l'anxiété ou je suis dépressif, je suis comme, ok, on se voit pas pendant 2 semaines, mange bien, dors bien, bois de l'eau, respire, médite un petit 5-10 minutes par jour, puis on se revoit dans 2 semaines, tu me diras si t'as encore les mêmes problèmes. T'sais. À un moment donné, il y a tellement de choses psychologiques qu'on... En fait, j'allais dire, il y a tellement de choses psychologiques qu'on pense qui sont psychologiques, mais qui sont physiques, mais en bout de ligne, c'est que le psychologique puis le corps, c'est beaucoup plus interdépendant qu'on pense.
C'est vrai que... Mais pareil, comme tu dis, le sommeil, la nourriture, ce que tu fais aussi, tes habitudes... Si selon toi, tu as des bonnes ou des mauvaises, bon, faut définir un peu ce qui est bon et mauvais aussi. Mais tout ça, c'est super important et ça rythme ta vie. C'est ce qui fera ensuite ce que tu deviendras. C'est ce qui influencera tes choix de demain. Donc, c'est sûr que si tu manges bien, si tu prends soin de toi, si tu dors bien, tu auras beaucoup moins de chances d'être dans une énergie basse régulièrement. Après, je pense que ouais, dans ton cas, en mode super activité, c'est super, bah, tu es déterminé et ça, c'est top. Mais après, c'est aussi connecter à soi et se dire, OK, à quel moment je suis en train d'un peu poser ses limites. Parce que quand tu lâches les limites, quand tu pars un peu dans l'extrême, moi, je suis vraiment dans le sens, il faut un équilibre partout. Partout dans le monde, il y a une polarité, il y a un équilibre, il y a un yin, il y a un yang, il y a l'homme, la femme, il y a... Il y a un équilibre partout en fait. Et si tu es trop en train de tirer sur un truc, au bout d'un moment, il va se passer un truc, je ne sais pas quoi, hein, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit même extérieur à tout ça, il va se passer un truc où ça va pas être cool.
Oui, il y a une anecdote par rapport à ça qui m'a vraiment. Qui a scellé ma décision de venir équilibrer toutes les parties de ma vie, justement, c'est que c'est pas une anecdote, mais c'est un peu une fable vraiment québécoise, en fait. C'est l'histoire d'un jeune bûcheron.
Yes. Un jeune j'ai bûcheron. Mis la chemise. Bon, j'ai mis la chemise.
Tu vois, mais même pas moi. Hey, je suis tellement pas patriotique pour 2 cents. Mais c'est ça, le jeune bûcheron s'en va au camp et il veut prouver au patron que qui est travaillant, puis qu'il va donner des résultats. Fait qu'il arrive, puis pendant que tous les bûcherons, ils bûchent pendant 8 heures, lui, il fait 14 heures, puis il bûche, puis il bûche. Puis le patron, du coup, il dit « Wow, il se donne, le jeune, il est bon!
Oh, » hein?
Puis là, le lendemain, il cogne à peu près pendant 14 heures encore, mais il produit un peu moins, tu sais. Puis là, le jeune, il se demande, il est plus essoufflé que la veille. Puis là, le troisième jour, il bûche, puis ça donne... Puis à la fin de la semaine, il est rendu qu'il travaille plus que les autres, mais il a un moins grand rendement que les autres. Puis là, le patron, il demande, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me donnes pas autant de résultats que le premier jour, tu sais? Puis il dit, ben je sais pas. Il dit, j'ai aucune idée. Fait que là, le patron, il demande, il dit, OK, c'est bien que tu travailles 14 heures par jour, mais combien de temps tu passes à aiguiser ta hache?
Yes.
Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God! » C'est quoi ma hache? C'est mon cerveau. C'est mon corps. C'est mon énergie présentement. Ouais, fait que si je prends... Si j'accorde aucun moment pour régénérer tout ça, régénérer mon énergie, m'assurer que je suis vraiment au maximum de ma forme mentale et physique, ben ma productivité, elle va juste s'en aller comme ça, puis à la fin, ben, je vais juste pédaler dans le beurre, tu sais.
Ouais, après, le tout, c'est d'arriver à s'écouter, à comprendre c'est quoi les signaux qui nous disent « OK, là, tu commences à un petit peu abuser. » Tu sais, c'est très subtil des fois, donc oui. Ça demande aussi beaucoup d'entraînement et d'expérience, hein, parce que au début, bah, tu fonces à fond. En fait, je pense que des fois, il faut faire la connerie d'y aller comme un dingue, limite de faire un burn-out et se dire « Ah, OK, c'est bon, j'ai compris ma limite. J'ai compris voilà, où est-ce que ça se jouait. » Maintenant, voilà, tout est une opportunité. Si tu as fait un burn-out, bah, tu vas comprendre maintenant que ça se joue ici, la limite. Donc, c'est top. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Pareil, j'y suis allé 3 mois comme un dingue à m'entraîner dans les coachings, à coacher. Je coachais environ toutes les semaines une quinzaine de personnes différentes. En plus de ça, je développais mon activité. En plus de ça, je me formais à côté encore. Et ça faisait... beaucoup de charges de travail et très psychologique aussi, et devant mon ordi tout le temps. Et à un moment, en fait, j'ai commencé à saturer. J'avais plus envie de coacher. Ben, je dis honnêtement, hein, j'avais plus envie de coacher. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? Je kiffe le coaching. Et là, je commence à ne plus avoir envie de faire des zooms avec des gens et de les aider. C'est bizarre. Et là, je me dis, OK, un indicateur. Je fais, Et du coup, je me dis, OK, tu sais quoi? Je vais prendre une semaine où je ne vais pas coacher. Je ne vais pas coacher pendant une semaine. Donc, j'ai annulé tous mes rendez-vous. Et ce que je vais faire, c'est que bah, je vais me reposer. Alors, je ne me suis pas vraiment reposé, hein, pour tout te dire. C'est que j'en ai profité pour… Je n'ai pas fait du coaching, mais j'en ai profité pour aller toquer aux portes et balancer des cartes de visite partout. Et pour avancer
bravo, dans mes... bravo pour le repos.
Oui, mais ça me dit bien quand même parce que j'avais besoin de lâcher là, un peu le coaching, le mental, le psychologique et d'être plus dans l'action. Peut-être plus dans l'action à bouger mon corps. Et
moins centré sur les besoins des autres et un peu plus sur les tiens aussi pendant cette période-là, j'imagine.
J'ai aussi utilisé ce temps pour créer aussi du contenu que j'avais à créer, tout ça. Mais j'ai pris ce temps-là une semaine et ça m'a fait beaucoup de bien de ouf. Alors, c'est vrai que j'aurais pu prendre une semaine complète, mais j'avais un peu de mal à complètement lâcher le pied, à vraiment lâcher le truc. Donc, j'ai quand même continué à faire ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, j'ai compris que, OK, là, trois mois comme un dingue, c'est une de mes limites. C'est-à-dire, OK, là, par rapport au coaching, 15 coachings par semaine pendant 3 mois, c'est lourd. Donc, je vais ralentir. Et du coup, ça te permet de voir ce qui te convient. Et tes échecs te permettent de… Enfin, tes échecs. Comment on pourrait dire? Tes alarmes, tes trucs qui te… Mmh. Qu'est-ce qui ne va pas? Te permet de comprendre vraiment qu'est-ce qui te va à toi. Parce que ce qui te va à toi ne pourrait peut-être pas aller à quelqu'un d'autre. Donc, donner des
et ça change au fur et à mesure que les années avancent. C'est ça qui est difficile.
Après, ça peut changer aussi, bien sûr, effectivement. Donc, il n'y a rien de figé dans la vie. Même le monde change tout le temps. Donc, c'est soit tu y vas ou soit tu restes immobilisé. Alors ça, c'est complètement autre chose, mais j'aurais envie de dire ça.
Ben, allons-y. En fait, j'avais une question pour toi parce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir des objectifs. Et tu as peut-être confronté ça personnellement ou bien des gens que tu coaches qui ont eu ce problème-là, qui ont beaucoup trop de champs d'intérêt, beaucoup trop d'idées, puis qui courent plusieurs lièvres en même temps, comme on dit ici. C'est autrement dit, d'avoir trop d'objectifs, trop de différents champs d'intérêt, puis d'essayer d'avancer sur tout en même temps. Ce que je trouve qui est un beau problème, à quelque part, parce que ça veut dire que tu mords dans la vie, puis que t'aimes beaucoup de choses, mais à un moment donné... J'appelle ça la stratégie du râteau, là. C'est le fait que tu t'avances tout un petit peu en même temps, puis finalement, ça va prendre 25 ans avant qu'il se passe quelque chose de substantiel dans tous ces projets-là. As-tu une stratégie pour éliminer des champs d'intérêt?
Éliminer des champs d'intérêt. En vrai, oui, j'ai déjà écouté des personnes comme ça qui avaient un peu cette tendance à faire plein de choses et au final, bah, pas avancer très lentement.
Il peut se passer pas mal de choses. Il y a la procrastination qui vient comme ça, qui me vient comme ça. Mais il y a pas que ça. Quand tu as plein de choses que tu as envie de faire, parce que si tu les fais, c'est que vraiment, tu en as un petit peu envie, eh ben, c'est OK parce que peut-être que tu dois tester ça, 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 pour comprendre, OK, ça me plaît, ça ne me plaît pas, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Mais ce n'est pas un problème en fait. Même si tu avances tout doucement, eh ben, c'est peut-être que c'est bon et c'est sain pour toi de faire tout ça en même temps parce que tu dois comprendre des choses, tu dois voir qu'est-ce qui te va le mieux. Donc, si tu t'es mis tout ça, comment dire, si tu t'es, t'as pris la décision de entamer plein de choses en même temps, c'est qu'il y a une raison. Déjà, c'est comprendre, OK, bah, qu'est-ce qui fait que je me surménage, que je fais plein de trucs à la fois différents. Qu'est-ce qui fait que je fais tout ça? Ça peut être une fuite, ça peut être une peur, ça peut être une façon de procrastiner aussi. Donc ça, franchement, c'est tout à chacun, c'est à creuser avec la personne, c'est vraiment du cas par cas. Donc là, je te dis, là, pour donner un conseil, on va dire comme ça, à ceux qui peuvent nous écouter, qui sont dans cette situation-là, bah, c'est de vivre ça à fond. Vivez ça à fond et voyez ce que ça donne. Parce que peut-être que c'est le meilleur moyen que vous avez à comprendre ce qui est vraiment et vous fait vibrer, quoi. Parce que c'est le plus important, c'est de trouver un truc qui te donne de l'énergie, pas qui t'en enlève. Donc, qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Et OK, bah, c'est pas pour moi, j'échoue. OK, ça ne marche pas. OK, hop, et tu testes. Et c'est OK de tester. C'est OK.
C'est incroyablement délicieux d'entendre ton conseil sur ce point-là parce que, écoute, je pose la question à tout le monde parce que c'est mon cas. Fait que, tu sais, ce podcast-là, je t'avoue que j'en tire un certain bénéfice personnel. Et ça, c'était une excellente réponse parce que c'est, je te dirais, c'est mon approche. C'est littéralement mon approche. C'est que j'ai des impulsions. Puis, il y a beaucoup de choses que j'ai essayées dans ma vie au point où est-ce que, les gens qui me connaissent à moitié ont l'impression que je commence plein de choses puis que je les finis pas, sans avoir de réflexion profonde. Et de mon côté, si j'arrête un projet, c'est parce que j'ai tiré une conclusion et que j'ai probablement 12 pages d'écrit sur le sujet de pourquoi
Yes.
je vais abandonner ce projet-là. Parce que c'est encore plus stupide de continuer un projet qui te nourrit pas ou un projet qui... Parce que souvent, les choses en apparence, par exemple, si tu dis, ah ben moi j'aimerais ça devenir bodybuilder, par exemple, tu veux devenir bodybuilder, t'aimes l'image d'avoir cette shape-là, t'aimes le
Yes.
statut social que ça va te donner, mais t'aimes pas ça aller au gym ou t'aimes pas ça manger de façon vraiment structurée et vraiment ennuyante parfois, si t'aimes pas cette contrainte-là qui vient avec le je dirais la vocation de bodybuilder, et ben il va falloir que tu t'en ailles de là, puis pour le découvrir, il va falloir que tu commences ça, tu sais.
Très probablement justement un fantasme du coup. Si tu veux devenir bodybuilder et que tu n'as pas envie d'embrasser les inconvénients, c'est que bah, c'est très probablement un fantasme. Et beaucoup de gens ont des fantasmes. Ça veut dire qu'ils veulent devenir machin, ils veulent avoir ça, ils veulent avoir ci, parce que c'est un fantasme en fait. Mais réellement au fond d'eux, en fait, ils ne le veulent pas. C'est parce que,
Comment
ouais.
tu distingues les deux? Ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Que tu fasses la distinction entre un objectif et un fantasme,
Pour
j'adore ça.
quelqu'un. En fait, généralement, en gros, c'est encore de la généralité, hein. Donc, pareil, ça prend avec des pincettes, mais quand quelqu'un veut un truc et puis qu'il n'est pas prêt d'embrasser tous les inconvénients que ça comporte, bah, c'est que c'est un fantasme, en fait. C'est qu'il veut pas réellement l'avoir. Parce que le mec qui veut vraiment être bodybuilder, bah, tous les sacrifices qu'il a à faire, il le fait. Il s'en fout, il se pose même pas la question. Parce que si c'est vraiment ce qu'il veut, mais dans les tripes, hein, il le fait. Donc, s'il se dit, ouais, mais là, mais s'il faut manger 6 repas par jour, il faut calculer ses calories, faut s'entraîner 5 à 6 fois dans la semaine, il faut se faire un programme, il ne faut plus trop avoir de vie sociale. Ouais, je suis pas trop prêt à ça. Eh ben mec, c'est un fantasme. C'est un truc que tu as envie parce que c'est à la mode, ou c'est parce que c'est le rêve de quelqu'un d'autre que t'as, voilà, tu veux faire parce que c'est cool. Voilà. Des fois, tu peux avoir des rêves de ton papa, de ta maman, qui t'a inculqué depuis que tu es né, mais en fait, c'est pas ton rêve, en fait. C'est tu fantasmes un truc. Et justement, moi, j'ai compris ça quand j'ai été, quand je suis parti au cours Florent vivre mes études de cinéma et de théâtre. Je voulais devenir une star du cinéma, acting, tout ça. Et je savais tous les sacrifices que ça demandait. Et j'étais pas prêt, finalement. Je me suis rendu compte que je voulais pas faire tous ces sacrifices-là pour réussir, entre guillemets, dans ce monde-là et devenir une star. Et je voulais pas tout ça, en fait. Et c'était très certainement un fantasme.
Wow! De quelle façon, à ce moment-là, est-ce qu'on trouve les objectifs qui viennent nous chercher dans les tripes? C'est quoi ta stratégie pour arriver à trouver
Bah, c'est tester
cette...
déjà, comme tu peux le faire, c'est tester et te rendre compte de, ok, bah, tout ce que ça demande, et si tu es encore là après tout ce que ça demande, si tu es toujours sur le chemin de cet objectif, alors que putain, mais il y a des embûches, mais tu n'imagines même pas quoi. Mais tu t'en fous, tu y vas quand même, tu dis, ok, bah, ça va pas être simple, ok, j'y vais parce que ça me fait vibrer, ça me donne l'énergie, je kiffe. Bah, mec, là, c'est que c'est bon, hein.
Fait que t'as pas le
Mais.
choix de t'engager dans le chemin pour le savoir, finalement. Tu peux pas pré-savoir si
Oui,
ça va
alors.
te...
C'est pareil, on revient au passage à l'action. Si tu passes pas à l'action, comment tu veux savoir si c'est un fantasme, si c'est pas un fantasme, si c'est vraiment pour toi, si ça te fait vibrer, si c'est de l'énergie, si ça t'enlève. Donc au bout d'un moment, bah, pour savoir ça, il faut passer à l'action, il faut, entre guillemets, en s'enlever les doigts et y aller, hein. Parce que bon, rester immobile et se dire, ouais, non, mais j'ai peur de si, je vais pas faire ça, mais ok, bah vas-y, bah, reste comme ça toute ta vie et puis regarde la vie te passer devant toi et puis malheureusement, meurs avec des regrets. Et moi, je me suis dit, bah, les regrets, c'est terminé. Que ça marche pas, j'y vais et j'y vais comme un dingue maintenant. C'est fini.
Wow, c'est vraiment très cool. C'est quoi ton background? Tu dis que t'as un background de musicien. Mettons, ta passion pour la croissance personnelle, pour le développement, puis le moment où tu as décidé que tu te lançais dans cette industrie-là, c'est quoi ton parcours en fait? Ça m'intéresse beaucoup.
Alors rapidement, parce que oui, en gros, je vais résumer 8 ans. Donc, on va résumer 8 ans en 5 minutes, ce serait pas mal.
Yes.
Hein? Si les gens nous écoutent encore, restez connectés, ça va être
De
intéressant.
toute façon, je fais des petites capsules avec ça, fait qu'ils finissent tous par écouter le podcast.
Alors, j'ai étudié la comédie au cours Florent à Paris. Je suis monté à Paris, voilà, ce rêve, voilà, cette envie de faire ça. À l'époque, je ne me suis pas encore rendu compte que c'était un fantasme parce que je n'avais pas toutes ces notions de développement personnel, tout ça. Donc, putain, ça ne marche pas, fais chier. Putain, merde. Bon, et puis j'ai eu une opportunité dingue qui s'est présentée devant moi. Genre, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert les portes d'un parc en Vendée qui s'appelle le Puy du Fou. Il m'a dit, bah, il cherche des comédiens là-bas pour une nouvelle création originale en 2016. C'était, est-ce que tu peux postuler? J'ai postulé. J'ai fait, ok, moi, je suis quelqu'un qui adore l'aventure, qui adore partir à explorer des trucs de dingue. Je fais, mais une nouvelle création 2016, Puy du Fou, bah, let's go, moi, bah, c'est bon, j'ai fini mon cursus, let's go, j'y vais. Je suis prêt à tout plaquer, ma vie parisienne, pour y aller. J'ai été accepté. J'ai tout plaqué en 3 jours. En 3 jours, j'ai plaqué toute ma vie à Paris, mon appartement, mon travail. J'ai travaillé dans un petit truc, un petit théâtre en tant que postier. J'ai tout plaqué. Je suis parti en Vendée avec un pote en mode je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne connaissais même pas le Puy du Fou. J'y suis allé. J'adore ça. Ça, c'est le genre de truc qui m'excite de partir à l'inconnu, tout seul ou pas, hein, mais en mode qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Ça fait peur. Ouais, mais j'adore. Enfin,
C'est vraiment ton leitmotiv, hein?
Mais bizarrement, je crois que j'ai ce truc d'aventurier en moi qui fait que explorer, genre même où j'adore me perdre en montagne tout seul, explorer des chemins inexplorés en fait, parce que j'adore ça. Je suis comme un gamin en mode waouh, bah, c'est un peu le même truc là où c'était en mode ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, mais j'adore ça, ça m'excite. T'as des gens, ça pourrait leur faire peur, mais moi c'était non, putain, j'ai envie d'y aller, ça va être trop bien, on va voir ce qui va se passer. Et voilà, je vais au Puy du Fou, je fais 4 saisons, je vis des trucs de dingue, j'apprends plein de choses, monter à cheval, me battre à l'épée, faire des cascades câblées, danser la valse. Plonger, j'apprends plein de choses. Et
Wow.
très riche expérience, mais très intense, donc vraiment très intense. J'apprends, je rencontre plein de gens, voilà, il se passe tout ça, et après, bah, j'ai envie de faire autre chose. Je sens à l'intérieur de moi que je suis appelé, amené à faire autre chose. Je retourne à Paris, je fais une colocation avec un pote du Puy du Fou, un ancien cascadeur, enfin non, il est toujours cascadeur d'ailleurs. Et puis là, j'ai cette envie de développer une indépendance financière. Donc, je rencontre un pote avec qui on a les mêmes envies.
on veut développer un business, donc bourse, immobilier, on s'intéressait beaucoup à ça. Et là, on décide de monter un resort à l'étranger. Donc, on va au Sri Lanka. Il se passe 2 semaines au Sri Lanka, on ne trouve pas de terrain pour mettre notre resort. On avait les investisseurs, on avait tout, hein. Dossier établi, tout. Sri Lanka, trop cher. Ok, on va à Bali. 2 mois après, à peine, non, même pas. Ouais, 1 mois et demi après, on va à Bali. On y reste 1 mois. J'ai fait ça, mais c'était 1 mois, donc du coup, c'est plus ça, du coup. On y reste 1 mois, et là, pendant ce mois-là, c'est là où tout a basculé, justement, où il y a cette bascule qui fait que je suis là maintenant devant toi aujourd'hui, en train de parler de tout ça. Et mon pote, il fait. Je sais pas ce qu'il fait en fait. Il pète un peu un câble, il parle plus du projet, il sort tous les soirs, il voit une prostituée régulièrement, il se lie d'amour pour elle, mais littéralement, hein, vraiment amoureux. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, là où je te parle, il lui a fait un enfant. Voilà. Du coup, il est parti un peu dans des trucs un peu comme ça, un peu. Bon, après, chacun sa life, hein, je respecte, mais plus du tout focus sur le projet. Du coup, moi, je me dis, mais j'ai mis toute mon énergie dans le projet, je suis déçu en fait. Du coup, bah, grosse remise en question, au bord de la plage, seul face à la mer, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais rentrer en France, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et là, bah, je prends du temps pour moi. Je me pose les bonnes questions, seul, et il y a des choses qui viennent, tranquillement, tu vois. Il y a des choses qui viennent, genre. Ouais, mais en fait, je crois que ouais, j'ai envie d'aider les gens. L'indice qui me dit que je suis dans le bon truc, c'est que quand je pense à des moments où j'ai aidé des amis, où je les ai motivés, où je les ai soutenus, bah, j'ai souvent ressenti des émotions. Et le fait de penser à ça me fait une émotion. Pour moi, l'émotionnel, c'est un indicateur qui ne ment jamais. C'est le corps qui te parle, en fait. Et quand tu apprends à comprendre des choses, fais parler ton corps et il te dira. Du coup, en coaching, je fais beaucoup ça. Dès que je vois un truc émotionnel, je fonce dedans parce que il se passe un truc derrière ça. Et donc moi, je ressens ça, je fais, ouais, ok, je veux aider les gens. Comment je vais faire? Je me suis renseigné, je vois le coaching, je fais, ok, bah, je vais coacher, let's go. Je rentre à Paris, et là, c'est confinement. Voilà, je rentre pour confinement. Donc du coup, je prends une première formation, je me forme une première fois. Trop théorique. Moi, j'ai besoin de pratique, beaucoup plus de pratique. Et là, depuis peu, enfin depuis 5-6 mois, je me suis inscrit à l'école de David Laroche.
Qui est excellent, d'ailleurs, je le suis, puis c'est vraiment de la qualité, là.
C'est lui réellement qui m'a donné envie de. Pour tout avouer, je voulais arrêter, enfin, pas arrêter le coaching, mais je doutais beaucoup de moi parce que j'avais tendance à donner des conseils et c'est pas du tout ce que fait un coach. Il donne pas des conseils. Voilà, ce qu'on fait, c'est différent. Hein. On parle en termes de généralité, donc forcément, on peut donner des clés et tout ça, mais en coaching, on pose des questions. On écoute là au client. On pose des questions. Et c'est toute la nuance. Je me suis perdu. Et du coup, voilà, là, je suis là actuellement, la formation de David Laroche, et je prends mon pied. Là, j'ai vraiment trouvé ce qui me donne de l'énergie. En plus, je développe mon entreprise. Je sens que je suis fait pour l'entrepreneuriat parce que ça me donne de l'énergie, quoi. C'est un truc qui me, tous les matins, je me réveille, je me dis, putain, yes, qu'est-ce que je vais faire pour développer ça, pour communiquer sur ça, pour. Et le fait d'avoir une équipe aussi, ça me stimule. J'ai un monteur, j'ai quelqu'un d'autre qui travaille pour moi, et ça me stimule énormément et j'ai hâte d'avoir de plus en plus d'employés pour créer l'entreprise et faire passer des messages en fait. Parce que c'est le plus important, c'est vraiment faire passer des messages et aider les gens pour simplement donner de l'amour indirectement.
Je te confirme que tu es vraiment à ta place dans ce domaine-là. C'est incroyablement pertinent tout ce que tu m'as dit depuis le début. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Camille, merci infiniment. C'était un podcast vraiment très riche en propos.
Merci à toi.
En espérant de refaire ça bientôt. Je continue de te suivre. Où est-ce qu'on peut te suivre exactement? Là, tu as Instagram, tu as YouTube, as-tu d'autres réseaux sociaux et sites web ou.
Ouais, alors j'ai mon site web, c'est camilleketino.com, tout simplement, camilleketino.com, Instagram, bah, pareil, camilleketino, YouTube, c'est camilleketino coaching, Facebook, ouais, j'ai une page aussi, mais je suis principalement sur Instagram, donc ouais, je poste tous les jours des stories et des posts régulièrement aussi, et il y a beaucoup de nouveautés, des trucs de dingue qui vont arriver, donc voilà, juste faire un petit teasing comme ça.
Ben oui, on est là pour ça. Puis, by the way, tout le monde, je vais mettre tous les liens dans la description en bas, ceux qui le regardent sur YouTube et Facebook aussi. Donc, hey, merci. Merci Camille, on se revoit très bientôt. Puis, n'oubliez pas tout le monde, choisissez vos pensées, choisissez votre vie. Ciao!